إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous en sommes donc aujourd'hui à la 18e et dernière leçon du livre de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, intitulé « Leçon importante pour toute la communauté ». Dans cette dernière leçon, le shaykh rahimahullah ta'ala nous a exposé ce qui concerne la préparation du mort, la prière sur lui ainsi que son enterrement. Et il a mentionné cela en raison de l'ignorance qui règne à ce sujet chez beaucoup de personnes parmi les musulmans. Ce qui mène nombre de gens à tomber dans des choses qui ne sont pas légiférées, qui font partie des innovations, ou encore à délaisser certaines obligations ou à faire des choses qui s'opposent à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le shaykh rahimahullah ta'ala a donc dit, voici le détail à ce sujet. Premièrement, faire répéter au mourant La ilaha illallah. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites dire à vos morts La ilaha illallah. Le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit, dans ce hadith, les morts désignent les mourants qui sont ceux sur qui apparaissent les signes de la mort. Donc ceci est la première chose et la première étape que le shaykh rahimahullah ta'ala a tenu à nous exposer ici, qui concerne le comportement à avoir lorsque l'on se trouve auprès d'une personne mourante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette orientation qui est de lui faire dire la ilaha illallah. Et ce car, comme il le dit dans un autre hadith sallallahu alayhi wa sallam, celui dont les derniers mots sont la ilaha illallah, il entrera au paradis. Il est donc très important que cette personne qui est mourante ait auprès d'elle des gens pouvant l'orienter vers cet acte immense et cette chose très importante qui est de prononcer la parole du Tawhid avant de quitter ce bas monde. Et les gens de science ont mentionné qu'il convient de faire cela avec douceur, c'est-à-dire de rappeler à la personne mourante qu'il est important pour elle de prononcer cette parole. Et il faut prendre en considération la situation de cette personne, qui est peut-être très souffrante. En effet, elle est en train de vivre un moment terrible et elle s'apprête à quitter ce bas monde. Il incombe donc à celui qui se trouve dans cette situation de faire preuve de sagesse et de douceur et de ne pas brusquer cette personne. Car il se peut que certaines personnes, en vue du mérite qu'il y a dans le fait de prononcer cette parole, soient un peu brusques et fassent preuve de manque de sagesse à ce moment-là. Il est donc très important d'appuyer sur cela. Et on rapporte une histoire très impressionnante à ce sujet, qui est l'histoire de la mort de l'imam Abu Zur'a, rahimahullah ta'ala. Alors qu'il était mourant, il y avait auprès de lui un certain nombre de savants. L'imam Abu Hatim, Muhammad ibn Muslim, et d'autres parmi les gens de science. Ils l'ont vu dans cette situation, et ils se sont rappelés de ce hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a cité ici. Faites dire à vos morts, la ilaha illallah. Faites dire à la personne qui est mourante, la ilaha illallah. Mais, étant donné la prestance de Abu Zur'a, c'était un imam, ils ont eu de la gêne à lui rappeler cela. Alors, ils ont opté pour une autre manière. Ils ont dit, venez, nous allons réviser le hadith. Alors, l'un d'entre eux a commencé à mentionner la chaîne de transmission qu'il avait apprise de ce hadith. Puis il s'arrêtait avant les derniers rapporteurs. Abu Hatim fit de même. Il mentionna sa chaîne de transmission de ce hadith, mais s'arrêta avant les derniers rapporteurs. Et les autres sont restés silencieux. Alors Abu Zur'a, qui était mourant, il se mit à dire « Bondar nous a rapporté, Abu Asim nous a rapporté, d'après Abdul Hamid ibn Ja'far, d'après Salih ibn Abi Arib, d'après Kathir ibn Murra al-Hadrami, d'après Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont les derniers mots son « La ilaha illallah » entrera au paradis. Puis il est mort, rahimahullah ta'ala. » Donc on voit à travers ce récit la sagesse qu'ont eu ces savants afin de lui rappeler l'importance de prononcer cette parole avant sa mort. Et il n'y a pas de doute que ces gens ont vécu avec cela, vécu avec cette parole, vécu avec ces hadiths, vécue avec la mise en pratique de la religion de l'islam. Donc il ne faut pas penser que prononcer cette parole au moment de la mort, c'est une chose simple, et qui sera facilitée à chacun d'entre nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la meilleure des fins. Mais la personne doit être consciente que c'est dès maintenant qu'il faut agir afin de pouvoir avoir une bonne fin, bi'idhnillahi ta'ala. Il incombe à chacun d'entre nous de faire des efforts dès maintenant afin de nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre en pratique cette parole dans nos vies, la parole la ilaha illallah, la concrétiser à chaque instant de nos vies, dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos actes, et ainsi de suite. Et ce premier point que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, cela est légiféré même si cette personne mourante n'est pas musulmane. C'est-à-dire qu'il convient, au moment de sa mort, de la convier à entrer en islam, comme cela est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec le jeune garçon juif, qui est entré en islam avant sa mort. Et également le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait avec son oncle, Abu Talib. Lorsqu'il était mourant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti auprès de lui et lui a dit: Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, cette parole me servira d'argument pour toi auprès d'Allah. Il l'a donc appelé à l'islam dans les derniers instants de sa vie. Mais il y avait auprès de lui deux polythéistes qui lui ont suggéré, lui ont dit: Vas-tu délaisser la religion de tes ancêtres? Vas-tu délaisser la religion de Abdul-Muttalib? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter: Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, cette parole me servira d'argument pour toi auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis les autres de répéter: vas-tu délaisser la religion de tes ancêtres? Puis Abu Talib est mort, et il décida de rester sur la religion de Abdul-Muttalib. Il n'est donc pas entré en islam. Donc on voit à travers ce récit l'importance d'appeler les gens à l'islam, et ce, jusqu'au dernier instant de leur vie, en les appelant à prononcer cette parole, la parole du tawhid, qui fait passer la personne de l'obscurité de la mécréance à la lumière de la foi. Et on voit également à travers ce récit l'importance d'avoir une bonne compagnie, l'importance d'être bien entouré. Regardez, dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient appeler son oncle à l'islam, mais il y a auprès de lui ces deux polythéistes qui lui ont obstrué le chemin de l'islam et l'ont appelé à rester sur la mécréance et le polythéisme. Donc, le musulman, il se doit de bien choisir son entourage, afin d'être bien entouré dans les moments d'épreuve, et notamment dans ce moment difficile, à l'approche de la mort. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'homme est sur la religion de son ami proche, que chacun d'entre vous regarde, qu'il prend comme ami proche. Donc on a dit que lorsque tu te trouves auprès d'une personne mourante, il convient, si elle est mécréante, de l'appeler à l'islam. Si c'est un musulman, d'essayer de lui faire dire la parole du tawhid, la ilaha illallah, afin que ce soit ses derniers mots avant de quitter ce bas monde. Et également, il faut prendre garde à ne pas prononcer des propos futiles, mais à ne dire que du bien. En effet, comme on l'a vu dans le passage sur la visite du malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: Lorsque vous vous trouvez auprès d'un malade, auprès d'une personne mourante, dites du bien, car les anges disent amin à ce que vous dites. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit: Deuxièmement, une fois sa mort avérée, on lui ferme les yeux et la bouche d'après ce qui est rapporté dans la sunna à ce sujet. En effet, il est venu dans le hadith que lorsque l'âme sort du corps, les yeux la suivent du regard. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala: Troisièmement, il est obligatoire de laver le mort musulman. C'est-à-dire que le lavage du mort, c'est une chose qui est obligatoire. Cela fait partie des droits du musulman. Mais le cheikh, rahimahullah ta'ala, apporte une précision importante et il dit: Sauf si c'est un martyr qui est mort au combat. Dans ce cas, on ne le lave pas, on ne prie pas sur lui, mais on l'enterre dans ses vêtements. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas lavé les morts de la bataille de Houd et n'a pas prié sur eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: enterrez-les dans leur sang. Et il dit dans un autre hadith sallallahu alayhi wa sallam: il n'y a pas une personne qui est blessée pour Allah, c'est-à-dire dans le combat, sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans venir au jour de la résurrection, avec sa blessure qui saigne, sa couleur sera la couleur du sang et son odeur sera l'odeur du musc. Ensuite, dans le point 4, le shir rahimahullah ta'ala nous a décrit la toilette mortuaire. Puis dans le point 5, il a décrit l'enveloppement du mort dans son linceul. Le shir rahimahullah ta'ala, ayant exposé ces questions de manière très détaillée, je vous laisserai le soin de lire vous-même ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné au sujet de ces points. Et nous passons directement au point 6, à la page 43, Inch'Allah ta'ala. Il a dit, rahimahullah, sixièmement, les personnes les plus en droit de laver le mort, de prier sur lui et l'enterrer. Pour l'homme, le plus en droit est celui désigné dans son testament, puis son père, puis son grand-père, puis ses plus proches parents parmi ses héritiers. Le plus en droit de laver la femme est celle désignée dans son testament, puis sa mère, puis sa grand-mère, puis ses plus proches parents parmi les femmes de sa famille. Et il est permis à l'homme de laver son épouse et vice-versa. En effet, Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, fut lavé par son épouse, et Ali lava son épouse Fatima, qu'Allah les agrée tous. Donc on voit à travers cela qu'il y a un certain ordre à respecter à ce sujet. Les hommes sont lavés par les hommes, et les femmes par les femmes, à l'exception de l'homme qui peut laver son épouse et vice-versa. Et on voit à travers la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, que la personne la plus en droit de se charger de cela est celle désignée dans le testament. Donc, si une personne craint que son entourage ne délègue pas cette tâche à quelqu'un de qualifié, à quelqu'un qui peut-être ne respectera pas ce qui est légiféré à ce sujet, alors il lui convient de laisser un testament dans lequel il désignera une personne pour se charger de ses rites funéraires, et notamment du lavage, de la mise en linceul, et ainsi de suite. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit, septièmement, la description de la prière mortuaire. Il dit, rahimahullah, elle est composée de quatre takbir. Donc dans cette prière, il n'y a ni prosternation, ni inclination, ni assise. Mais on reste debout du début à la fin. Il dit, rahimahullah, après le premier takbir, on récite la fatiha. C'est-à-dire que tu fais le premier takbir, et tu lèves les mains pour cela, de la même manière que pour la prière. Puis tu dis, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, ainsi que la basmala, et tu récites la fatiha. Et il n'y a pas d'invocation d'ouverture qui est nécessaire lors de la prière mortuaire. Et il dit, rahimahullah, et c'est une bonne chose, de réciter après elle, après la fatiha, une courte sourate, ou bien un ou deux versets, d'après le hadith authentique rapporté à ce sujet d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah. Donc tu récites sourate al-fatiha, et si tu le souhaites, tu peux réciter une courte sourate après elle, ou bien quelques versets du Coran. Et cette récitation, elle a lieu à voix basse. Elle ne se fait pas à voix haute. Il dit, rahimahullah, on prononce ensuite le deuxième takbir. Puis on prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière que durant le tashahhud. Comme on l'a vu dans la leçon 9, il y a différentes manières de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant le tashahhud. De la même manière, après le deuxième takbir de salat al-janaza, de la prière mortuaire, tu vas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, on prononce ensuite le troisième takbir. Puis on dit. Donc après le troisième takbir, on fait des invocations en faveur du mort. Et notamment ces invocations-là qui sont rapportées dans la sunna authentique. Il dit, rahimahullah, puis on dit. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, wa shahidina wa ghaibina, wa saghirina wa kabirina, wa dhakarina wa unthana. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. Ô Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts, nos présents et nos absents, nos petits et nos grands, nos hommes et nos femmes. Médite sur cette invocation immense qui est prononcée lors des prières mortuaires en faveur de l'ensemble des musulmans, hommes et femmes, grands et petits, morts ou vivants, présent ou non. C'est une invocation immense qui est prononcée lors de Salat al-Janaza. Ensuite tu dis, Ô Allah, celui que tu laisses en vie parmi nous, fais-le vivre sur l'islam. Et celui que tu fais mourir parmi nous, fais-le mourir sur la foi. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire, fais-le vivre sur l'islam, fais-le mourir sur la foi. Pourquoi? Car l'islam ici, il désigne les œuvres pieuses, l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc celui qui est en vie lui incombe de multiplier les bonnes œuvres. On demande donc que celui qui reste en vie vive sur l'islam, qu'il multiplie l'accomplissement des bonnes œuvres afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui que tu fais mourir parmi nous, fais-le mourir sur la foi, c'est-à-dire fais-le mourir sur la croyance authentique. Car à ce moment-là, il n'y a plus d'œuvre une fois mort. Mais il est indispensable que la personne meure avec une croyance authentique. Car c'est sur cela que repose l'acceptation de l'ensemble de ses œuvres. Ensuite tu dis, Allahumma ighfir lahu warhamhu, وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي، وزوجا خيرا من زوجي، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبري ونور له فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Oh Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Accorde-lui le salut et efface-lui ses fautes. Moi donc que commence par invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de pardonner à ce mort, de lui effacer ses péchés, de lui accorder le salut, c'est-à-dire de lui préserver du châtiment. Ensuite on dit « accorde-lui une noble demeure ». Donc ce qui est traduit par « accorde-lui une noble demeure » c'est « wa akrim nuzulah ». Al-nuzul en arabe, cela désigne en réalité ce que l'on offre à son hôte. Donc c'est-à-dire « honore-le, ô Allah, durant son séjour et élargis-lui sa tombe ». Lave-le avec l'eau, la neige et la grêle, et nettoie-le de ce péché comme on nettoie le vêtement blanc de l'impureté. C'est-à-dire purifie-le, Allah, de la manière la plus complète, afin qu'il ne lui reste plus aucun péché. Et il a été donné ici l'exemple du vêtement blanc, pourquoi? Car sa pureté est plus apparente comparée à un vêtement d'une autre couleur. Ensuite on dit, remplace-lui sa demeure par une meilleure demeure, c'est-à-dire fais-le entrer au paradis, Allah. Accorde-lui cette noble demeure dans le paradis, qui est bien meilleur que les demeures de ce bas monde. Et remplace-lui sa famille par une meilleure famille, son épouse par une meilleure épouse. Ou on pourrait dire son conjoint par un meilleur conjoint. Les gens de science ont mentionné que ce qui est visé ici par le remplacement de la famille et de l'époux ou de l'épouse, c'est ou bien des autres personnes qui seront meilleures que celles-ci, ou alors ces mêmes personnes, mais dans une meilleure situation. C'est-à-dire que la personne qui était vieille, par exemple, au paradis, elle redeviendra jeune. La personne qui était laide, au paradis, elle sera belle. La personne qui, peut-être, avait certains mauvais traits de caractère, au paradis, elle aura des beaux traits de caractère. Et ainsi de suite. Donc c'est cela qui est visé par cette invocation lorsque l'on dit « remplace sa famille par une meilleure famille, son conjoint, son épouse ou son époux, par une meilleure épouse, un meilleur époux. Fais-le entrer au paradis. » Protège-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer, élargis sa tombe et illumine-la pour lui. Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous égare pas après sa mort. Ne nous prive pas de sa récompense, c'est-à-dire la récompense de la bienfaisance envers lui après sa mort. Comme en invoquant en sa faveur, en ayant accompli la prière sur lui, en ayant fait preuve de patience suite à sa perte, et ainsi de suite. Et toutes les choses qui peuvent être faites en faveur du mort, une fois qu'il a quitté ce bas monde. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de cette récompense. Et ne nous écarte pas après sa mort, c'est-à-dire, préserve-nous de toute forme d'égarement, et maintiens-nous fermes sur la religion, ô Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaykh rahimahullah wa ta'ala dit ensuite, on prononce ensuite le quatrième takbir, qui est le dernier takbir de la prière mortuaire. Puis, une seule salutation à sa droite. Donc on comprend que, lors de la prière mortuaire, après le quatrième takbir, il n'y a plus rien à prononcer. Et certains ont dit qu'il n'y avait pas de mal à invoquer après le quatrième takbir, de prononcer des invocations de notre choix en faveur du mort. Donc, si tu pries derrière un imam qui laisse un temps après ce quatrième takbir, il n'y a pas de gêne à invoquer à ce moment-là. Et s'il fait les salutations directement, alors tu le suis et tu fais les salutations, comme l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné une seule salutation à sa droite. Et il dit rahimahullah, et il est recommandé de lever les mains à chaque takbir. On a vu que cette prière elle est composée de 4 takbirs. On a dit qu'on levait les mains pour le premier. Et certains parmi les gens de science ont mentionné qu'il n'y a que pour celui-ci que les mains devaient être levées. Et d'autres, comme l'auteur, rahimahullah ta'ala, ont dit que le mieux et ce qui est préférable est de lever les mains à chaque takbir. Et ce, d'après ce que faisait Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma. En effet, l'imam ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit « Les gens de science sont unanimes. » Quant au fait que celui qui prie sur les morts lève ses mains pour le premier takbir, et Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, levait ses mains à chaque takbir. Il va donc de soi que il a appris cela du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, si le mort est une femme, ou s'ils sont deux, ou s'ils sont plusieurs, on accorde alors les pronoms en genre et en nombre. Donc dans les invocations que l'on vient de voir, on invoque en faveur du mort en disant « Allahumma ghfir lahu », pardonne-lui. Mais si c'est une femme, ou qu'elles sont deux, ou qu'elles sont plusieurs, alors ces pronoms-là vont être accordés en genre et en nombre. Il dit « Si c'est une femme, on dira « Allahumma ghfir laha », »« jusqu'à la fin de la vocation, c'est-à-dire Allahumma ghfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, et ainsi de suite. Ou Allah pardonne-lui, c'est-à-dire à elle. S'ils sont deux, Allahumma ghfir lahuma, ou Allah pardonne-leur à tous deux. Et s'ils sont plusieurs, Allahumma ghfir lahum, ou Allah pardonne-leur. Il n'y a donc pas de mal lors des invocations d'accorder ces pronoms en genre et en nombre en fonction des situations. Ensuite, il dit, rahimahullah, si le mort est un enfant, on dit à la place de la demande de pardon, c'est-à-dire à la place de la deuxième partie de l'invocation que vous avez sur la page 44. Vous avez vu, il y a deux parties de l'invocation. Donc, à la place de la deuxième partie, on dira cette invocation qui est mentionnée ici. Allahumma ja'alhu faratan wa dhakhran liwalidayi wa shafi'an mujaban. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'dhim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi bi rahmatika 'adhab al-jahim. Ô Allah, fais qu'il soit une récompense avancée et réservée pour ses parents ainsi qu'un intercesseur exaucé. Ô Allah, fais de lui une cause pour alourdir leur balance et augmenter leur récompense. Fais-le rejoindre les croyants vertueux, place-le sous la tutelle d'Ibrahim et protège-le par ta miséricorde du châtiment de l'enfer. Il n'y a pas de doute que l'enfant qui meurt en bas âge, avant la puberté, si ses parents patientent, alors ils obtiendront une récompense immense pour cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, toute femme qui perd trois de ses enfants, alors ils seront pour elle une protection contre le feu. Une femme dit alors, même deux, c'est-à-dire même si elle en perd deux et non pas trois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même pour deux. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout couple qui perd trois enfants avant leur puberté, Allah subhanahu wa ta'ala les introduira au paradis par sa miséricorde. Ses enfants se trouveront devant une porte du paradis. Et on leur dira d'y entrer, mais ils diront, nous n'y entrerons que lorsque nos parents viendront. On leur dira alors, entrez donc au paradis, vous et vos parents, par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On voit donc qu'ils intercéderont afin que leurs parents entrent également au paradis. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous a décrit dans le paragraphe suivant l'emplacement que doit prendre l'imam face au corps lors de la prière mortuaire. Puis il nous a décrit l'enterrement. Et de la même manière que ce qui concerne le lavage et la mise en linceul, ceci a été décrit par l'auteur, rahimahullah ta'ala, de manière très détaillée. Je vous laisserai donc le soin de le lire vous-même, incha'Allah ta'ala. On va juste lire les deux derniers paragraphes à la page 47, où l'auteur, rahimahullah ta'ala, parle d'une chose qui est légiférée après l'enterrement. Il dit, il est recommandé pour les personnes présentes de se tenir debout près de la tombe et d'invoquer Allah en faveur du mort. En effet, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait l'enterrement d'un mort, il se tenait debout devant sa tombe et disait, implorez le pardon d'Allah en faveur de votre frère et demandez qu'il soit raffermi, car il est maintenant interrogé. On voit donc qu'une fois que le mort est enterré, il est légiféré pour les personnes présentes d'invoquer afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le raffermisse. Car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est maintenant interrogé. Qu'est-ce que cela signifie? Une fois qu'il est enterré, les anges viennent, l'assoient dans sa tombe et lui posent trois questions. Quelles sont ces trois questions qui lui sont posées? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Les trois questions que l'on a vues lors de notre étude des trois fondements. Il est donc important pour le musulman de mettre en pratique cela tout au long de sa vie, de concrétiser sa foi, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le raffermisse lorsqu'il sera dans cette situation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah raffermit ceux qui ont cru d'une parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le serviteur a donc besoin, lorsqu'il se trouve dans sa tombe, d'être raffermi. Et c'est pour cela qu'il est légiféré d'invoquer en sa faveur afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le raffermisse lors de cet interrogatoire. Et c'est la seule chose qui est légiférée à ce moment-là. Il n'est pas légiféré de réciter certaines sourates du Coran ou autre chose, car ceci fait partie des innovations en religion. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit, neuvièmement, il est légiféré pour celui qui n'a pas prié sur le mort de prier sur lui après son enterrement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Toutefois, ceci n'a lieu que durant le mois suivant l'enterrement. Au-delà d'un mois, il n'est plus légiféré de prier sur la tombe, car il n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait prié sur une tombe plus d'un mois après l'enterrement du mort. Donc si une personne, par exemple, a manqué la janaza d'un de ses proches, n'était pas présente au moment de son enterrement, alors il est légiféré pour elle de se rendre auprès de sa tombe afin de prier sur ce mort, car cela a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir rahimahullah ta'ala dit que ceci ne peut avoir lieu que durant le mois suivant l'enterrement. Toutefois, des gens de science ont dit qu'il n'y a pas de preuve au sujet de cette limite, et que ce qui est juste est qu'il n'y a pas de limite dans le temps, incha'Allah ta'ala. Dixièmement, il n'est pas permis pour la famille du mort de préparer à manger pour les gens, d'après la parole du noble compagnon Jarir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « Nous considérions le rassemblement auprès de la famille du mort et la préparation d'un repas après l'enterrement comme faisant partie des lamentations. » Ceci n'est pas légiféré. Quant au fait de leur préparer à manger pour eux et leurs invités, alors il n'y a pas de mal en cela. Ce n'est pas à la famille du défunt de préparer à manger, mais c'est aux gens de leur préparer à manger afin de les soulager. Il dit, rahimahullah, il est même légiféré pour leurs proches et leurs voisins de leur préparer à manger. En effet, lorsque la nouvelle de la mort de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Hisham parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna à sa famille de préparer à manger pour la famille de Ja'far et il dit, il leur est arrivé ce qui les préoccupe. Quelle est cette chose qui leur est arrivée et qui les préoccupe? C'est la perte de leurs proches. Il convient donc de les soulager en cette situation, car ils n'auront pas la tête à préparer à manger ainsi de suite. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de gêne à ce que la famille du mort invite leurs voisins ou autres à manger de la nourriture qui leur est offerte. C'est-à-dire que si on leur offre beaucoup de nourriture, que beaucoup de gens parmi leurs proches et leurs voisins leur amènent de la nourriture, alors il n'y a pas de mal à ce qu'ils convient leurs proches ou leurs voisins à en manger. Toutefois, ceci ne doit pas avoir lieu ou être organisé comme un événement. Il dit, rahimahullah, il n'y a pas de moment particulier pour cela, d'après ce que nous connaissons de la législation. C'est-à-dire, comme l'imposent certaines personnes, au premier jour, au 40e jour, et ainsi de suite, à préparer un repas particulier. Ceci n'a aucune source dans la législation de l'islam. Et celui qui veut être profitable pour son proche défunt, alors, premièrement, qu'il invoque en sa faveur l'imploration du pardon, qu'il pense à lui dans ses prières, dans ses prosternations, qu'il pense à lui au dernier tiers de la nuit entre l'adhan et l'iqama, qu'il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Et également, s'il veut faire des actes qui lui profitent, alors il lui est permis de faire des aumônes en son nom, de donner des sadaqas, de donner de l'argent pour construire une mosquée, pour construire un puits, ou autre chose semblable, afin que la récompense parvienne à ce mort, incha'Allah ta'ala, et ceci sera beaucoup plus profitable que ces repas qui sont faits et qui n'ont aucune source dans notre législation. D'ailleurs, j'attire l'attention de nombre de nos frères qui peuvent être conviés parfois dans certaines mosquées à ce genre de repas. En effet, généralement, on voit que les personnes, lorsqu'ils font ces repas, qu'est-ce qu'ils font? Ils en amènent une partie à la mosquée. Donc, lorsque tu vois qu'il y a un repas à la mosquée, que de la nourriture est emmenée, il te convient de te renseigner sur la nature de ce repas. Et si ce repas est à l'occasion de ce qu'ils appellent l'arba'iniya, pour les 40 jours après la mort d'une personne, alors il ne convient pas d'en manger, car ceci est une chose qui n'est pas légiférée. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, onzièmement, il est interdit à la femme de faire le deuil d'un mort plus de 3 jours, sauf le deuil de son mari, qui doit obligatoirement être de 4 mois et 10 jours. Donc tout d'abord, en quoi consiste le deuil? Les gens de science ont mentionné que cela consiste, premièrement, à ce que la femme reste chez elle, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas, elle reste à son domicile, et également qu'elle ne s'embellisse pas, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas de beaux vêtements, elle ne se parfume pas, elle ne met pas de maquillage, elle ne met pas de kuhl sur ses yeux, elle ne met pas de henna, et ainsi de suite parmi les formes d'embellissement. Et ceci n'est permis que durant une durée de 3 jours, à l'exception du deuil du mari qui dure 4 mois et 10 jours. Et ce d'après le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas permis à une femme qui croit à Allah et au jour dernier de faire le deuil plus de 3 jours, à l'exception du deuil du mari, qui est de 4 mois et 10 jours. » Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit « Sauf si elle est enceinte. Dans ce cas, le deuil durera jusqu'à l'accouchement. » Le shaykh rahimahullah ta'ala dit, comme cela est confirmé dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce, que l'accouchement ait lieu avant la fin des 4 mois et 10 jours ou après celle-ci. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » Quant à celles qui sont enceintes, alors leur terme est au moment de l'accouchement. Ensuite, il dit « Quant à l'homme, il ne lui est pas permis de faire le deuil de qui que ce soit parmi ses proches ou autres. » Car le deuil est une chose qui est spécifique aux femmes. Le fait de rester au domicile, de ne pas s'embellir et ainsi de suite. Et cela n'est pas légiféré pour les hommes. Quant au fait de pleurer suite à la mort d'un proche, alors, tant qu'il n'y a pas d'exagération en cela, que cela n'est pas accompagné de choses blâmables, comme le fait de se frapper, de crier, de se déchirer le vêtement ou autre, alors il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. En effet, il est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a pleuré à la mort de son fils Ibrahim. Il a dit « Le cœur s'afflige, les yeux pleurent, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. » Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit « Douzièmement, il est permis pour les hommes de visiter les cimetières de temps à autre, afin d'invoquer pour les morts, d'implorer la miséricorde en leur faveur, et pour se rappeler de la mort et de ce qui vient après elle. » Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Visitez les tombes, car elles vous rappellent l'au-delà. » Donc on voit que la visite des cimetières, elle est légiférée pour les hommes. Et elle a plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, le fait d'invoquer pour les morts. Et non pas d'invoquer les morts. Car il y a certaines personnes, wal'iyadu billah, qui se rendent dans certains cimetières, auprès de certaines tombes, auprès de certains mausolées, et qui y vont pour invoquer les morts. En pensant que ce mort a un rang particulier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il l'invoque en dehors d'Allah, et ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Mais lorsqu'on visite les cimetières, c'est pour invoquer en faveur des morts. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il pardonne et qu'il fasse miséricorde à ce mort. Et également parmi les sagesses de ces visites des tombes, il y a le fait de se rappeler de la mort et de ce qui vient après elle, et ce afin de pouvoir s'y préparer. En effet, ceci fait partie des causes d'adoucissement du cœur, que le serviteur se rappelle de la mort, qu'il se rappelle de l'au-delà, du châtiment de l'enfer. Et ceci va l'aider à se rappeler que ce bas monde est éphémère, qu'il n'est que de passage, et qu'il est là pour prendre ses provisions pour l'au-delà, multiplier les œuvres pieuses, afin de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et délaisser l'ensemble des péchés et des mauvaises actions. Donc lorsque tu fais cela, tu mets en pratique cette sunnah à laquelle nous a encouragé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cela te permet d'adoucir ton cœur et également de faire preuve de bienfaisance envers les morts, et ce par l'invocation en leur faveur. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, et lors de la visite des tombes, il a enseigné à ses compagnons de dire « Assalamu alaykum ahl ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa inna insha'Allah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al-'afiyah yarhamullah al-mustaqdimin minna wal-musta'khirin » Que le salut soit sur vous, ô habitants de ces demeures parmi les croyants et les musulmans. Nous allons certes vous rejoindre si Allah le veut. Nous demandons à Allah de nous accorder le salut ainsi qu'à vous. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui ont avancé parmi nous, ainsi qu'à ceux qui tardent encore. Donc ceci est une invocation en faveur des morts. Assalamu alaykum, que le salut soit sur vous. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala de les préserver du châtiment de la tombe, les préserver du mal de leurs péchés, les préserver du châtiment de l'enfer. Et certains parmi les gens de science ont dit que les morts pouvaient entendre les salutations qui leur sont adressées. Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit que les hadiths à ce sujet comporte certaines faiblesses, et donc cette question est discutable. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, quant aux femmes, il ne leur est pas permis de visiter les tombes. Donc la visite des tombes, c'est une chose qui est spécifique aux hommes. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui visitent les tombes, car il est à craindre pour elles la tentation et le manque de patience lors de leur visite. Et ce car, de par sa nature, la femme est en général plus faible que l'homme. Donc, il se peut que, en se trouvant auprès des tombes, elle en vienne à faire certaines choses, manifestant un certain manque de patience. Et il leur est aussi interdit de suivre le convoi funéraire jusqu'au cimetière. Non pas le droit de suivre le convoi funéraire. Car le messager, sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit cela. Donc elles n'ont pas le droit de visiter les cimetières, elles n'ont pas le droit de suivre le convoi funéraire. Toutefois, il dit, rahmallah, quant à la prière mortuaire, à la mosquée ou dans un lieu de prière. C'est-à-dire si elle n'a pas lieu dans le cimetière. Elle est aussi bien légiférée pour les hommes que pour les femmes. Donc ce qui est interdit pour les femmes, c'est qu'elle aille au cimetière, qu'elle visite les tombes, ou alors qu'elle suive le convoi funéraire. Quant au fait de prier, si la prière a lieu à la mosquée ou ailleurs, dans un autre lieu, alors il n'y a pas de mal en cela, incha'Allah ta'ala. Il dit ensuite, ceci est ce qui m'a été possible de réunir, qu'Allah couvre d'éloges et salue notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons. Nous avons donc fini par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étude de cette épître immense, les leçons importantes pour toute la communauté de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. On remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir comblés de ce bienfait immense en nous permettant de nous réunir pour ces assises de science. Ce qui était juste provient d'Allah et les erreurs ou les manquements ne proviennent que de moi ou du diable et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.